Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais « Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre? Elles vont sonner pour toi. »
Quel beau texte! Donc c'est le texte que Jean Malraux a dit pour l'entrée au Panthéon.
Oui, bonjour Gisèle.
Eh bien, bonjour,
bonjour
Patrick.
Vous êtes ému, je vois.
Mais oui, parce que ça, chaque fois que je l'entends, ça me remue.
Ah bon?
Mais oui.
Ah bon? C'est un beau texte de Jean, oui, d'André Malraux.
D'André Malraux.
D'André Malraux, qu'il a lu devant le Panthéon.
Devant le général de Gaulle.
Bien sûr.
Voilà.
Et surtout devant les restes de Jean Moulin le 19 décembre 1964, par un froid de canard, on pourrait dire, mais nous avions par-dessus des écharpes, des gants, des chapeaux, alors que les résistantes sur les camps étaient quasiment nues, dans le même froid, la même neige.
Voilà. Donc ça ressort bien tout ça, son discours fait
oui,
bien ressentir les choses.
Tout à fait, tout à fait.
Et puis on sentait qu'il y mettait de l'émotion, parce que c'était quand même un parcours bien particulier, Jean Moulin.
Jean Moulin et Malraux aussi, on va dire.
Ah ben bien évidemment,
Malraux
mais là, aujourd'hui on parle de Jean Moulin.
Bien sûr,
voilà.
Jean Moulin, mais Malraux est toujours derrière un peu, qui fut aussi un grand combattant en Alsace, où les combats et le froid de 44 ont été particulièrement
virulents.
Voilà, voilà. Donc, c'est de Jean Moulin que nous allons essayer de deviner qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se cache peut-être derrière la fameuse photo.
Ah oui, parce qu'en fait, de Jean Moulin, on connaît surtout cette photo. C'est ça qu'on connaît, avec son chapeau, son écharpe.
Voilà.
Donc, qui est derrière cette photo?
Qui est derrière?
C'est
comme les visages des êtres humains, avec un chapeau.
Qui se cache derrière.
Un chapeau, un feutre, donc,
oui.
Une écharpe, un foulard. Et oui, cette photo a été prise à Montpellier, pour ceux qui connaissent peut-être Montpellier, à la promenade du Peyrou, dans le centre de Montpellier. C'est une sorte de vague esplanade et on a une très belle vue. Ensuite, on monte sur une petite terrasse et c'est contre le mur d'une sorte d'aqueduc, on va dire, que Jean Moulin se fit photographier finalement en mars 1940. En mars 40. Bon, c'était pas encore... oui, il y avait eu la drôle de guerre, mais en mars 40, il se fait photographier. D'autres ont dit qu'elle datait de 39. Il y a toujours un mystère chez Jean Moulin, toujours. Hein. Les dates sont les dates, certes, mais déjà...
C'est approximatif, en fait.
On ne sait jamais.
On ne sait jamais
trop. Le Mistral souffle toujours. Et aujourd'hui, c'est pareil encore. Voilà, donc cette photo vous inspire peut-être, non?
Mais oui, parce que je ne sais pas ce que je ressens quand je vois cette photo. Je vois quelqu'un quand même qui est assez gai. Pour moi, ça ressemble peut-être plus la gaieté que la tristesse. Et quand on connaît son parcours, mais c'est ça je me dis, mais qu'est-ce qu'il a pu se passer dans ses yeux, dans son... Je ne sais pas, c'est quand même un grand mystère.
C'est bien qu'il reste du mystère maintenant.
Oui, c'est pas mal.
Que tout ne soit pas cuit et tout ça donné à digérer en quelques secondes et on passe à autre chose. C'est bien que ça nous reste, ça nous porte à réfléchir sur les choses qui ne sont pas si simples. Savez-vous que Jean Moulin est venu dans notre bonne ville de Bourg-en-Bresse?
Alors, je ne savais
fois.
Pas. Voilà, donc il y a des traces quand même.
Et il y a des traces, oui, 1943, c'est son année fatidique. Il est venu deux fois, peut-être d'autres, vous savez, la clandestinité. Hein.
C'est ça.
Mais enfin, grâce à une plaque qui est apposée le 17 juin 1983 sur un immeuble de 3 étages de l'avenue Alphonse Baudin, quand vous
près
allez
de la gare,
la
oui.
gare quand mmh. vous allez à la gare, au numéro 14, là habitait un dentiste qui m'a arraché 2-3 dents, entre parenthèses, mais qui était vraiment adorable et très compétent, M. Raymond Charvet. Il était dirigeant du mouvement Combat, dirigeait ce mouvement.
C'est là qu'il se retrouvait, en fait.
Il se retrouvait, quelques clandestins du département se retrouvaient. Et donc, on sait que Jean Moulin est venu dans cet appartement. On pense que c'est, bien sûr, quelques jours avant son arrestation.
Son arrestation à Caluire.
À Caluire, dont nous reparlerons. Mmh. Et puis, donc, vous avez une plaque, donc vous avez un texte qui est un peu au-dessus de la porte d'entrée. Que lisons-nous ? Ici fut hébergé Jean Moulin, donc hébergé. Donc recueilli.
On ne sait pas pendant combien de temps.
Voilà, mettre à l'abri, héberger, c'est un mot d'origine allemande qu'on retrouve dans le mot auberge, c'est-à-dire on se mettait à l'abri.
C'est ça.
Comme si on était dans une berge, c'est-à-dire une montagne.
Montagne, oui.
Voilà. Président du Conseil national de la résistance, avant son arrestation par les occupants nazis. Voilà le texte de cette plaque qui est toujours apposée.
En place
au 14 de l'avenue de la gare ou Alphonse Baudin. Il y a aussi une autre station, on pourrait dire. Il n'y a pas de plaque à ce moment-là. C'est au 6 de la rue Lalande. La rue Lalande, un peu...
Côté du temple.
Vers le temple, presque au tournant sur la gauche, quand on quitte l'avenue Alsace-Lorraine, que l'on prend maintenant la nouvelle direction à gauche, eh bien, on passe devant Albert Camus, et au tournant aussi, s'il y a une demeure assez importante, avec des volets de couleur lavande, on peut dire. Mmh. C'est là que résidait le docteur Gustave Léger, qui était médecin bien connu à Bourg. Et que dit-il ? J'ai hébergé, voyez le terme qui revient, accueillir pour le mettre à l'abri. C'est très intéressant. J'ai hébergé cet homme sans savoir en fait de qui il s'agissait.
Mais oui, parce que finalement, il recevait des gens, il ne les connaissait pas en fait. Oui. Il ne savait même pas que c'était lui qui dirigeait le réseau de la région du Sud.
Il fallait attention, comme disait une affiche, ne parlez pas, les oreilles, les murs ont des oreilles.
Des oreilles, oui.
Ça n'a pas changé. Je pensais que celui-ci m'était envoyé par ses anciens camarades militaires d'Annecy. Ma maison, dit le médecin, avait 2 entrées et 2 sorties, ce qui facilitait les allées et venues et les fuites éventuelles.
C'était plus facile, oui.
Jean Moulin, qui passa une nuit chez moi, me conseilla de ne jamais garder de documents.
Ah oui.
Il fallait les apprendre par cœur. Mémoire, es-tu là ?
Oui, c'est ça, oui.
Et ne jamais rien conserver.
Oui, parce que ça pouvait être dangereux.
Voilà. Mes parents connurent des résistants qui avaient des documents, des petits documents.
Et ils se sont fait piéger comme ça.
Et voyant qu'ils allaient être interceptés, les ont avalés.
Pouf.
Eh ben oui. Sinon, voilà. Et Bourg n'est pas loin de Lyon. Ah, Lyon, c'est votre ville, bien sûr, c'est sa ville. Bien sûr, il résida aussi chez une dame, Madame Labonne, en un mot, place Antonin Juitard, anciennement place Raspail, vous devez voir où c'est.
Je connais, oui.
Et depuis le second étage, il pouvait surveiller par une fenêtre le pont de la Guille, la Guillotière et les quais du Rhône.
Oui, c'est ça.
Parce que son secrétaire, Daniel Cordier...
Oui. Qu'on connaît bien. Oui,
Bordeaux, qui a tenu une galerie d'art aussi, après la guerre. Bordeaux, 10 août 1920, était installé de l'autre côté du fleuve et il guettait le retour de Jean Moulin, son patron, depuis l'Hôtel Dieu, qui a changé maintenant.
Il est très beau d'ailleurs.
Mais quand la lumière s'éclairait et s'éteignait 2 fois, cela voulait dire que le chef était bien rentré à la maison. Vous voyez, il fallait faire attention dans ces temps-là.
Oui.
Certains étaient préparés, d'autres ne purent jamais s'y faire et se firent pincer, malheureusement, la première sortie. Il fallait se méfier. Voilà. Donc, Jean Moulin, résistant et quoi encore ?
Artiste.
Artiste, voilà. Jean Moulin, artiste. Quelqu'un qui aurait voulu être dans l'art, qui aimait l'homme aux 600 dessins, disons.
Oui.
Peintre aussi, mais surtout dessinateur. Et il aurait bien voulu faire une carrière dans l'art, dans... pas dans les travaux manuels, mais pourquoi pas être un artiste avec un grand...
Et il avait beaucoup de talent, il avait beaucoup de talent. Quand on voit les fiches, qu'on a retrouvé ses dessins, oui, c'était vraiment super.
Oui,
il
presse,
avait un bon coup de patte.
Beaucoup de pattes, beaucoup de crayons, beaucoup de caricatures.
C'est ça, il caricaturait bien les gens.
Même quand il se trouvera moribond sur un banc du Fort Montluc aussi, et puis à Paris... affreusement torturé et tout, il aura la force de faire le dessin de son bourreau, plutôt la caricature.
C'est comme ça qu'on a retrouvé Klaus Barbie.
Klaus Barbie, et oui, de sinistre mémoire. Donc, c'était quelqu'un qui est né à Béziers.
Mmh.
Généralement, on s'est dit, Jean Moulin, il est né où ? À Paris, à Chartres ? Non, Chartres, il y a été comme préfet. Et il a été déjà un peu torturé là-bas. Le 20 juin 1899, donc presque 1900, c'est la naissance à Béziers, la maman ne travaille pas, enfin si, elle a beaucoup de travail à la maison.
Ah oui, c'est ça, elle s'occupe de sa famille.
Eh bien oui, et puis le papa, il est professeur d'histoire-géographie, un peu de français aussi, c'est un homme politique très en vue, qui adora son fils aussi, qui est très laïque, qui fait partie de ligues, et qui est en même temps un poète. C'est un poète, et le fils n'est pas loin. Un poète, et il s'occupera beaucoup des associations...
Son fils avait pris d'ailleurs le relais aussi avec les associations, parce qu'il avait
très
fait...
Très tôt.
Il rencontrait surtout des jeunes, tout ça, il s'occupait
de... Ils étaient très proches de ce qu'on appelle aujourd'hui, mais de ce qu'appelait Renain autrefois, c'est pas nouveau, le vivre ensemble.
Oui.
On aimait bien se retrouver, puis c'est le midi, c'est Béziers, il fait beau. Donc, le jeune Joseph, c'est l'aîné, qui mourra vers 18-19 ans. Ensuite, au milieu, il y a Laure, la sœur, qui sera professeure d'anglais, qui est venue sur Bourg. Que j'avais rencontré.
Que vous aviez rencontré dans un ascenseur, c'est
ça ? Dans l'ascenseur, tout en ignorant qui c'était.
Oui, c'est ça. Oui.
Je ne l'ai su que le lendemain, de la part d'une personnalité burgienne qui m'a dit, mais je suis mauvais, mais m'a dit c'était Laure Moulin,
la sœur de Jean.
Oui. Ouh là là, j'ai le souvenir d'une dame d'un certain âge, mais. Comment dire, qui se tenait, une dame, mais discrète, mais il y avait un caractère là derrière. Mais très bien, très beau souvenir. Et puis il y avait Jean Moulin, qui arrive le 20 juin 1899, et bon, il voudrait être dessinateur.
C'est
mais
ça.
Son père lui dit, oui, mais il faut gagner sa croûte, tu vas passer ton baccalauréat d'abord, il vaut peut-être mieux. Et ensuite, faculté, il va aller à la faculté de droit de Montpellier.
Oui.
Mais comme le père connaissait beaucoup de monde, et il était bien, il a fait de la politique.
Il était bien introduit un peu partout.
Le préfet a proposé un poste d'attaché. Mettre le pied déjà dans
la fonction publique.
Dans la fonction publique, dans la préfectorale.
C'est ce qu'il voulait après.
Voilà, c'est ça. Mais donc le père l'a aidé et puis bon, il a commencé sur le terrain et il a pu faire ses études de droit tout en étant...
Et continuer ses études, oui.
Bon, c'était un peu une alternance, comme on dirait.
Ça lui permettait de gagner un peu sa vie. Hein.
Et oui, parce que les parents devaient débourser car les deux enfants étaient étudiants.
Ah, oui.
Et il fallait s'installer, il fallait payer la chambre, il fallait se nourrir. Il n'y avait pas les polycopes ça coûtait pour la famille.
C'était cher, oui.
Premier septembre 1917, on était encore en guerre, le voilà attaché au cabinet du préfet de l'Hérault.
C'est ça.
Et en 18, il est mobilisé au 2e génie de Montpellier. Il est envoyé sur le front dans les Vosges, mais bon, c'est presque la fin, donc il ne combattra pas.
Pas trop, non.
Il est à Charmes aussi, très jolie ville des Vosges, là, la ville de Barès, qu'il connaissait. C'était peut-être pas ses idées, mais il appréciait la façon d'écrire. C'était un artiste. Il aimait beaucoup les beaux textes, la belle orthographe, la belle écriture. Et en 1920, il va se retrouver chef adjoint du cabinet du préfet de l'Hérault. Donc, il commande le préfet Lacombe qui va...
Et là, il commence à gagner pas mal de sous.
Il commence de l'argent. Et bon, c'est très élogieux, l'appréciation. Il fera quelqu'un de bien une fois qu'il aura terminé ses études de droit.
C'est ça, voilà.
Eh bien oui, il faut passer, il faut finir.
Oui. Oui, donc en 1921, il a sa licence quand même de droit.
Il a sa licence en droit et en 22, il est chef de cabinet du préfet de la Savoie. Il est à Chambéry.
C'est ça, voilà, le nouvel arrivé à Chambéry.
Chambéry. Après, ça sera sous-préfet d'Albertville. Et c'est le plus jeune sous-préfet de France déjà.
Oui.
Donc une
cure. Ce sera le plus jeune sous-préfet, le plus jeune préfet.
Tout à fait. Ça sera très fulgurant. Voilà, cette carrière qui est très brillante mais rapide va quand même attirer l'attention des services germaniques, des services allemands.
Il était surveillé ?
Non, pas surveillé.
Pas encore, non.
C'est pas ça, non. Mais après la guerre, eh bien, les Allemands s'intéressent toujours à la France. Mmh. C'est toujours leur voisin immédiat. Et pour s'intéresser sur le plan politique à la France, il faut s'intéresser aux préfets, les préfets. Car nous avons des départements et l'Allemagne n'a pas de département.
Ils ont des régions.
Ils ont des grandes régions. Mmh. Et c'est le même problème aujourd'hui. Pas problème, mais c'est la même chose aujourd'hui. Mmh. Donc si on veut s'intéresser au département de l'Ain, il faut s'intéresser à la carrière des préfets, qui reflètent un peu la politique et puis l'histoire du département.
C'est
donc
ça.
Déjà, ils repèrent ce jeune préfet. Pour eux, c'est bien parce que chez eux, les préfets, à l'époque, ils avaient quand même de l'âge, parce qu'il avait fallu du temps, surtout après
la
Grande
Guerre,
comme chez nous. Ensuite, il va se marier avec Marguerite Cerruti. C'est un mariage un peu éclair, on va dire, sans être méchant, 1926-1928.
Ça n'a pas duré.
Bon, puis après, silence sur les rangs, mais en 1930, il est sous-préfet à Châteaulin, dans le Finistère. Ça, c'est une époque qui lui a plu, il est en Bretagne.
Il a découvert la montagne.
Découvert la montagne et après la mer.
Le ski, vraiment. Voilà. Alors là.
La mer, après la montagne, c'est la mer, la Bretagne, qui est plutôt, disons, avec des traditions, plutôt sur la droite. Lui est toujours dit homme de gauche, mais c'est un préfet, et comme le monsieur Lacombe disait, trop intelligent pour être sectaire.
Ni de droite, ni de gauche, dirons-nous,
voilà, aujourd'hui. Droite, ni de... Si vous voulez, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Oui. Hein.
Et puis le préfet, ben oui, c'est l'État, mais quand même, il faut être sur le terrain. Et il avait de très bons rapports avec les maires bretons et la tradition bretonne. Et puis lui aussi, il met bien les traditions, parce que dans le Midi, en Provence, c'est un peu ces pays, ces départements, ces régions un peu extrêmes, comme la Provence, la Bretagne, l'Alsace. C'est ces régions un peu des marches d'autrefois, des marches, des limites. Ce sont des caractères bien trempés. Donc, il fallait être... Il a beaucoup été regretté quand il est parti, quand il a quitté Châteaulin. Il aimait beaucoup un poète, Saint Paul Roux aussi.
Ça, oui.
Il a beaucoup aimé ce poète. Et il a, pour lui, Châteaulin, c'est une étape très importante et dont il se souviendra avec grande nostalgie. En 1932, il sera chef adjoint du cabinet de Pierre Cotte. C'est sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, Pierre Cotte, qui retrouvera plusieurs fois dans sa carrière. Oui. C'est ce qui intriguera un peu Outre-Rhin, de voir tantôt il est préfet, tantôt, puis revient au cabinet au ministère de l'Air.
Oui.
Et puis après, il reprend un poste. Ce n'est pas une ligne très rectiligne, si vous voulez.
C'est sinueux.
Voilà. Donc, de l'autre côté, ils sont habitués des choses plus directes, ils vont le suivre comme ils suivaient d'autres préfets aussi, surtout de la région Est et Nord, bien sûr. Et oui, sous-préfet de Montargis, mais très bref, en 1934, mais le 19 janvier 1934, il est à Montargis, le 20 février 1934, il est sous-préfet rattaché sur sa demande à la préfecture de la Seine.
Oui,
il y a un changement, il y a quelque chose.
Changement de pied.
Oui, Mais en 1934 aussi, 19 mai, le voilà dans la Somme, secrétaire général de la préfecture de la Somme. Il voyage beaucoup, donc c'est, ça lui permet de, d'avoir une image.
Mais il prend un peu la température de la France dans ce cas-là,
c'est
parce
ça.
Qu'il connaît.
Il connaît un peu tout.
Ça le permet de reconnaître
c'est
un
utile.
Peu. Oui, c'est ça, oui. Oui, très utile.
En 1937, le voilà préfet de l'Aveyron, il est à Rodez.
Oui.
C'est toujours le plus jeune préfet de France.
C'est ça.
37 ans, vous vous rendez compte ? Et sera fait chevalier de la Légion d'honneur le 27 février 37. En mai 37, hein, il quitte, il regagne le ministère de l'air.
Voilà, il va,
rejoindre Pierre Cotte.
Voilà,
avec la guerre d'Espagne, on s'occupe un peu, il y a des avions, on aide un peu les républicains.
Les républicains, oui, voilà. Parce que...
Bah,
de toute façon, il les aidait parce qu'il s'apercevait quand même que les Allemands et puis les Italiens aidaient beaucoup les franquistes.
Et voilà.
Donc c'est pour ça qu'il voulait un équilibre.
D'équilibre.
Voilà.
Oui, parce que les Allemands se sont entraînés, malheureusement, rappelez-vous,
Guernica,
etc. 1938... Le préfet de l'Aveyron, bon, c'est fait. Et puis, le 21 janvier 1939, c'est le dernier poste, c'est le poste de préfet de l'Eure et Loire. Loire,
Chartres.
L-O-I-R.
À Chartres.
Chartres.
Mm-hmm.
C'est à Chartres. Et c'est là qu'il va, donc, il va beaucoup aimer Chartres. Bon, il y a la cathédrale de Chartres. Il connaissait tous les vitraux et du Cécianal, l'architecture.
Elle est belle, cette cathédrale.
Il se promenait souvent.
Ouais, ouais.
Mm-hmm. Et les gens apercevaient, le préfet était content de voir que ce préfet venait admirer Chartres. Et puis, c'était un connaisseur de Charles Péguy aussi.
Ah, oui.
Donc, évidemment, eh bien oui, il fallait, par la lecture, illustrer la pierre et la musique que l'on voyait et entendait et écoutait à Chartres. Donc c'est un préfet qui va payer de sa personne quand l'occupant va débarquer à Chartres un beau matin du mois de juin. Il va aider. Tout le monde est parti.
Mais c'est l'exode.
Il reste. Il y a un vicaire général qui reste. L'évêque est parti. Et à la mairie, il n'y a qu'un conseiller général. Le reste a pris la poudre
d'escampette. Oui.
Oui. Donc il est là, dans la cour. Et il y a une photo classique, on le voit en uniforme, avec le képi, c'était pas la casquette, Monsieur Besnard et le vicaire général qui attendent, ils attendent l'occupant.
C'est ça.
Voilà, et puis on va... Donc là, ça va être très difficile parce qu'on va lui mettre un papier à signer,
voilà.
Sous prétexte d'exaction.
De la mauvaise conduite des troupes françaises, oui.
Voilà,
donc il a été quand même assez bousculé parce qu'il a refusé de signer ce papier.
Oui,
donc
oui.
Il est frappé assez sauvagement,
voilà.
Il est jeté à terre, mais il ne cède pas. Il ne veut pas signer.
Voilà, il ne cède pas,
non.
Il ne veut pas signer.
Le protocole qui atteste la mauvaise... Voilà.
Après, d'ailleurs, un officiellement viendrait s'excuser.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Oui, d'accord. Mais au début, dans la nuit où il est laissé dans une cabane avec un tirailleur, il est là, laissé, et il ne sait pas s'il pourra résister à la torture. Et donc, il se tranche la gorge avec un tesson de bouteille, bon, espérant, mais il se rate, si on peut dire.
Oui.
Voilà. Donc, il va être hospitalisé, guéri, mais c'est pour montrer la force de caractère du préfet.
Parce qu'il ne voulait pas.
Il ne voulait pas parler du préfet Moulin. Voilà. Et il sera révoqué. Il va être révoqué.
Le 2 novembre 1940. À cause de son opposition au régime de Vichy.
Voilà.
Donc il est relevé de ses fonctions, là.
En révocation, il part.
Il quitte Chartres.
Il quitte Chartres, départ le 8 novembre. Et il va s'installer
dans le sud.
Dans la maison familiale de Saint-Andiol.
C'est
dans
ça.
Les Bouches-du-Rhône. Mmh. C'est dans les Alpilles. Et c'est un très joli village.
Puis il se réfugie dans le sud parce que là, les Allemands ne sont encore pas...
Ils ne sont pas encore là.
Voilà.
Ils n'arriveront qu'à partir du 11 novembre 1942.
Oui.
Donc là, il est bien. Il va être agriculteur, cultivateur. Il va cultiver la terre comme Candide. Il est donc à Saint-Andiol, dans la maison familiale, dans les Bouches-du-Rhône. C'est très bucolique comme coin. C'est la Provence.
C'est les
Alpilles.
Oui.
Loin
il est très attaché aux Alpilles, d'ailleurs.
C'est un Provençal.
Oui, sa famille est originaire de là, oui, c'est
voilà.
Ça.
Donc, c'est très... Et comme un vrai Provençal, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont un peu taiseux.
C'est ça,
ils sont silencieux, ils sont faussement exubérants. Voilà. Et puis, par la suite, il va essayer de... Nous sommes en décembre 40, et puis...
Il prend contact avec plusieurs mouvements de résistance,
voilà,
c'est ça?
Finalement, qu'il va décider de rejoindre Londres.
Oui, c'est ça.
Il lui faut un passeport, mais il faut un passeport...
Il est avec des faux papiers?
Voilà, l'Espagne, le Portugal, il rencontre des agents britanniques déjà... pour être présenté au général de Gaulle, après avoir subi tous les tests, parce que là-bas, il arrive à Londres, il s'est fait attendre. Monsieur Joseph Mercier, c'est son nom de combat, si on peut
dire. C'est ça, oui.
Il s'est fait attendre, et Joseph Mercier enfin arrive en octobre, 25 octobre. Et la présentation au général de Gaulle, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose de très important, parce que nous avons affaire à deux portraits. Nous avons Jean Moulin et De Gaulle. Comment vont-ils...
C'est des deux entités, en fait.
S'apprécier.
Oui, c'est ça.
S'apprécier. Ouais. Alors, si vous le permettez, essayons de voir ces deux fortes personnalités, parce que De Gaulle et puis Jean Moulin, qui ne sont pas du même bord, si on peut dire, mais qui sont là entre quatre yeux.
Ils sont là pour défendre la France.
Tout à fait.
Donc c'est ça qui les réunit.
Deux fortes personnalités, deux caractères et deux destins. Rappelons De Gaulle, 1890, il a fait la Grande Guerre et captivité de 32 mois. Moulin, 1899, quelques mois au front, puis armistice. Charles De Gaulle, il est bon de rappeler quand même, par rapport à Moulin, officier supérieur, milieu catholique, traditionnaliste, aristocratique, formé par les jésuites. Jean Moulin, fonctionnaire civil. Un homme de gauche, trop intelligent pour être sectaire, comme disait un de ses supérieurs.
C'est vrai.
Mystique de la République, ayant une culture laïque et jacobine. De Gaulle se défie des idéologies. Il ne croit qu'aux nations. Nationalisme, une certaine idée de la France, mais c'est aussi accueillir les bonnes idées de gauche, quand même. Car, comme René Cassin, un Moulin, par exemple... Et nos deux grands hommes peuvent se retrouver sur bien des points.
C'est ça.
Ils sont assez au-dessus des choses pour se trouver.
Ils ont cette finesse, cette intelligence.
Intelligence. On passe au-dessus. Ce sont des provinciaux.
Oui, oui.
Donc, ils traitent avec les gens d'en haut sans en être tributaires.
C'est ça, oui.
Ce sont des provinciaux, mais ils montent à Paris s'il faut. Ils sont à l'aise aussi. Ce sont deux hommes de culture.
Oui.
Le jacobin peut frayer avec le nationaliste qui avait lu Maurras, Charles Péguy, le philosophe Bergson, Maurice Barrès, mais il connaissait bien Lazare Carnot et Clémenceau.
C'est ça. Il naviguait de l'un à l'autre et c'est bien.
Ce sont deux grands serviteurs de l'État.
Oui.
Ils ont une expérience administrative. Et ils connaissent bien le concept de secret défense, forcément. Moulin fut chargé par Pierre de Cotte d'aider les républicains espagnols, vous l'avez dit.
Ce qu'on a dit tout à l'heure.
Et De Gaulle, de 32 à 37, fut au secrétariat général du Conseil supérieur de la défense nationale. Et en juin 40, il eut une courte expérience gouvernementale. Pour dire que ces portraits parallèles aboutissent quand même à la même chose.
C'est un peu croisé.
C'est croisé.
Même si c'est parallèle,
c'est croisé. C'est la défense de la France et il y a tout à faire.
C'est ça.
Parce qu'en 1940, notre pauvre pays, on ne sait pas trop où il va.
Oui.
On ne sait pas trop où il va. Nous avons une défaite en 6 semaines monumentale.
Cuisante,
monumentale. Voilà, et maintenant, il faut essayer de prendre le taureau par les cornes. C'est là peut-être que la France se réveille et se révèle. Et parfois, elle est trop tard. Car la guerre, comme disait Erasme, ce grand philosophe, le grand Erasme de Rotterdam, disait que la guerre se naufrage de toute bonne chose.
Ah.
Ça, c'est bien vu. Et un écrivain et journaliste suisse, et général de Jomini, la guerre, ce drame effrayant et passionné. On dirait que les gens, ça leur suffit pas. Voilà. Et il va falloir résister. Comme disait André Chanson, qui fut directeur des archives nationales aussi, Résister, c'est sans doute combattre, mais c'est aussi plus. C'est refuser d'avance à accepter la loi de la défaite.
C'est très joli, ça.
Nous dit André Chanson. Oui, c'est aussi faire plus, c'est refuser d'avance à accepter la loi de la défaite. André Chanson, 1900-1983. Voilà. Donc, nous allons voir ce premier séjour, 19 septembre 1941, Joseph Mercier, et ensuite il sera parachuté en Provence, tout près de la maison, bien
oui,
sûr,
c'est ça.
Avec deux autres agents, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. Mais nous voilà en Provence, il a quitté l'Angleterre, donc nous allons regagner l'Angleterre. L'histoire d'écouter une mélodie qui était un tube à cette époque-là, 1938-1940.
Donc le 31 décembre 1941, il est parachuté dans les Alpilles.
Il est parachuté dans les
Alpilles. Avec mission capitale, réaliser l'unité entre les chefs du Nord et du Sud.
Avec l'ordre de mission donné par le général de Gaulle. Mmh. Londres, 24 décembre 1941, je désigne M. Jean Moulin, préfet, comme mon représentant et comme mon délégué du comité national pour la zone non directement occupée de la métropole.
C'est ça.
M. Moulin a pour mission de réaliser dans cette zone l'unité d'action de tous les éléments qui résistaient à l'ennemi et à ses collaborateurs. M. Moulin me rendra compte directement de l'exécution de sa mission. Charles de Gaulle.
C'est ça.
Donc, il est parachuté et il atterrit un peu en catastrophe, mais tout va bien quand même.
Puis le chef de la région Nord, c'était Brossolette, à ce moment-là.
Brossolette, qui finira tristement et tout. Mm-hmm. Voilà, donc, ça va assez vite, hein, car en face, l'Allemagne a beaucoup changé, a changé rapidement. Deux chiffres quand même. 1929, le parti nazi, c'était 2,9%. 10 ans plus tard, c'est 85%.
C'est ça, oui.
Voilà. Mmh. Voilà. Et puis nous, on a regardé, chacun fait comme il peut, rien n'est simple. Donc, ce premier séjour, il y aura aussi un deuxième séjour, parce qu'il faut voir De Gaulle, Jean Moulin, qui part en le deuxième séjour général de l'Estrin, qui était à Bourg.
C'est ça, voilà, il l'a aidé quand même. Hein.
Oui.
Il l'a bien aidé.
15 février, 30 mars 1943, et de l'Estrin sera arrêté le 9 juin 1943 à Paris, et Jean Moulin, comme vous savez, le 21 juin 1943 aussi, à Caluire, hein, le fameux épisode archi connu.
Maison du docteur Dugoujean.
Tout à fait, avec beaucoup d'eau, il y avait une concentration de signatures, de pointures, d'hommes déterminés, et nous connaissons déjà. Ce qu'on connaît moins, c'est que Moulin est arrivé donc à Londres, et De Gaulle raconte dans ses mémoires, en février arrivèrent Moulin et le général de l'Estrin, commandant l'armée secrète. Je revoyais le premier, devenu impressionnant de conviction et d'autorité, conscient que ses jours étaient comptés. Voilà la réalité des choses, mais résolu à accomplir avant de disparaître sa tâche d'unification. J'orientais le second, le général, qu'il avait bien connu, investi d'une mission laquelle, à mains égards, sa carrière ne le préparait pas, mais qu'il assumait, cependant, avec la fermeté du soldat que rien n'étonne s'il s'agit du devoir.
C'est ça, le devoir, il fallait le faire jusqu'au bout.
Quant à Moulin, Moulin avait longuement préparé les voies. Je lui prescris de former, sans plus attendre, le Conseil national de la Résistance, CNR. Où siégeraient les représentants de tous les mouvements des deux zones, de tous les partis politiques et de deux centrales syndicales pour tout le monde.
Je croyais que c'était le mur à ce moment-là, la création du mur.
Ça sera après. Ça sera après. Et que ce soit le mur ou le CNR, c'était très difficile. Parce que les Français sont aussi les Français. Ils ne sont pas toujours...
C'est un peu rétif.
Rétif, et puis il y a tellement d'opinions, tellement de... C'est difficile pour mettre tout le monde d'accord. Je le nommai membre du comité national français et lui remis, dans ma maison d'Imstead, la croix de la libération, au cours d'une cérémonie dont aucune jamais ne fut plus émouvante. De l'Estrin, pendant son séjour, put travailler avec les principaux chefs militaires et de la sorte, l'action de la Hesse, lors du débarquement en France, serait... autant que possible, là aussi, lié au plan de commandement. Il faut aller penser aux Britanniques et aux Américains, aux Canadiens. Tout le monde n'avait pas les mêmes vues.
Oui.
Les Français sont les Français, les Américains sont les Américains, etc.
Oui, mais la guerre se passait sur notre terrain, en fait.
Mais chez nous,
ça se passait chez nous.
On avait droit de regard.
Heureusement, d'ailleurs.
De l'Estrin sera un inspecteur général avant que la grande bataille commençât. Était un inspecteur général. Mais peu de temps après son retour en France, cet homme d'honneur devait être arrêté sur dénonciation par l'ennemi, déporté pour finir hypocritement abattu à la porte d'un camp de misère, offrant à la patrie sa vie qu'il lui avait d'avance sacrifiée. Moulin et de l'Estrin partirent le 24 mars 1943 pour le combat et pour la mort. Nous dit Charles de Gaulle, Mémoire de guerre, l'unité 42-44, livre de poche, par 100, pages 112 et 113. combat avec à sa tête Henri Freinet, Franck Tireur, Jean-Pierre Lévy, et Libération Sud, il y avait Emmanuel Dastier de la Viserie, et puis les Aubrac aussi.
C'est
et
vrai.
Combien d'autres aussi, tous ces grands noms, ces grands personnages qui forment aussi notre histoire de France. Donc il appartenait, comme vous avez dit, au Conseil National de la Résistance, plongé au centre du Creuset, de forger la France nouvelle. Il fallait recueillir toutes les données et susciter tous les travaux qui pourront éclairer la nation et guider ses dirigeants entre le choix de la route qui la mènera. C'est une tâche très étendue, périlleuse. Le Conseil, l'importance en est extrême. Le Conseil va s'en acquitter malgré toutes les difficultés avec seul but de servir la France et en s'inspirant constamment de cette fraternité nationale qui permet à la France de résister à ses malheurs et qui la mettra demain à même de se reconstruire, il fallait le prévoir après tout ça, l'après, se reconstruire et se renouveler, si bien que le 27 mai 43, on est toujours en 43, au 48 rue du Four à Paris, c'est la première réunion du CNR. C'est une première réunion, il y a beaucoup de monde. C'est l'œuvre de Jean Moulin où il a été critiqué, il a été contesté. Il y avait les représentants de 8 grands mouvements de résistance, les représentants de 2 grands syndicats d'avant-guerre.
Il y avait des partis politiques aussi.
Il y avait la CGT, la CFTC, et les représentants de 6 principaux partis politiques, comme vous dites, de la Troisième République. Il y avait le PCF, la SFIO, les radicaux, les démocrates chrétiens, l'Alliance démocratique, droite modérée et laïque, et enfin la Fédération républicaine. Droite conservatrice et catholique. Nous, on ne s'y perd pas trop, mais l'étranger s'y perd.
Bien évidemment.
Toutes ces nuances. Voilà, Jean Moulin et ses 2 collaborateurs, à savoir Pierre Meunier et Robert Chamberon, ont participé à cette réunion. Et le 27 mai, un mois plus tard, Jean Moulin avait été arrêté et le général de Lestrin aussi. Donc la tête de la résistance française était décapitée. En face, ils étaient malheureusement assez performants, outre la trahison.
Oui, c'est ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de trahison.
Bien sûr.
Ils ont été donnés, ces gens-là.
Ils ont été donnés. Alors maintenant, peut-être, vous avez peut-être un portrait de Jean Moulin, Gisèle, ça serait intéressant.
Oui.
Ça nous fait une voix féminine, parce qu'on est un peu dans le drame là-dedans.
Oui, c'est quand même assez joli, parce qu'en fait, comme il faisait partie d'une société chambérienne, donc il faisait aussi du théâtre.
Oui,
voilà.
oui, c'était son
donc
côté
la,
artiste.
Donc la Benjamine du groupe, elle avait dit... Mince, vif, il surprenait par un air d'extrême jeunesse.
Oui.
Son visage mobile et expressif, aux yeux noirs, tour à tour rêveur et ou pétillant de malice, devint bientôt familier aux Chambériens. Jean Moulin rejoignait volontiers à ces mouvements de loisirs, notre groupe amical de jeunes pour danser ou faire de la montagne.
Voilà.
Si au premier abord il pouvait paraître un peu réservé et distant, il était, dès qu'on le connaissait mieux, un ami incomparable, faisant preuve de cette gentillesse innée, si rare, qui vint du cœur. Dans notre petit groupe, dont il fut très vite l'âme, il était à la fois le plus gai et le plus sage, le meilleur ami. Il avait un rayonnement extraordinaire qui le rendait très différent des autres jeunes gens. Ses idées généreuses, qu'il exprimait simplement, mais avec foi, furent pour beaucoup de nous à l'origine d'une prise de conscience plus profonde de certains problèmes humains.
Voilà. Voilà. C'est un beau texte qui nous éclaire parce qu'on ne le connaît pas finalement.
Non.
Certaines réserves, un peu pudiques, je pense aussi.
Ah oui, c'est ça. Mais il est très bien décrit, là.
Très bien décrit. Très bien décrit, artiste aussi.
Et c'est ça, parce qu'en plus, elle dit qu'il avait un talent de dessinateur, un amour très grand de la poésie, de la musique, voilà.
C'est quelqu'un qui aimait la vie.
Oui, c'est ça.
Qui aimait les femmes aussi.
Ah, ça, c'est autre chose.
Qui aimait les femmes et qui aimait bien aussi les soirées artistiques
c'est ça, voilà.
À Montparnasse, par
voilà.
exemple.
Donc
c'est un autre éclairage du
Il était assez sportif, en plus, parce qu'il faisait de la montagne. Il avait découvert la montagne et il a été amoureux de la montagne.
Montagne, il a la Mégève. Avec les côtes.
Oui.
Faisait du yacht aussi, du ski. Il était moderne pour l'époque.
C'est vrai.
Il n'était pas que préfet.
Voilà. Quand on dit il est préfet, artiste, résistant, il a toutes ces étiquettes.
Oui, oui. Et c'était, comme vous avez dit, c'était un garçon. À Béziers, on dit qu'il était plein d'énergie.
C'est vrai.
Il était rieur, intelligent et dissipé. Et comme étudiant, il aimait la fête. Voilà, il aimait la fête. Il était caricaturiste de talent. Il avait une âme d'artiste. Il aimait le sport, vous l'avez dit.
Oui.
C'est un séducteur et sensible au charme de la vie sentimentale. Il était animé d'une passion du cœur pour sa famille, ses amis, et particulièrement sa mère et sa sœur Laure.
Oui. Son frère avait disparu, c'est vrai.
Le frère aîné, Joseph. C'est pour ça qu'il choisira comme prénom dans la résistance Joseph,
oui,
Joseph Mercier. Et Max, c'est en souvenir du poète qui a disparu dans la tourmente. Max Jacob.
Mmh.
Voilà, en souvenir de Max Jacob, disparu à Drancy. Et il y avait aussi tout ce côté, en dépit des incertitudes de l'entre-deux-guerres, contrairement à notre goût pour le malaise dépressif, dit un journaliste que je nommerai pas, il faisait confiance à l'avenir.
C'est bien.
Il était optimiste et savait saisir l'esprit de la jeunesse pour construire son bonheur, donner du sens à sa vie. C'était ça. Il était comblé de dons, c'est un fin lettré, un peintre de talent, administrateur prestigieux, une aisance souveraine dans tous les domaines, de l'esprit.
Beaucoup d'esprit.
Un humaniste. Et savait se faire aimer de ceux qui l'approchaient par sa simplicité. C'est un préfet abordable.
C'est ça
qui ressort.
Ah, c'est tout à fait ça.
Courtoisie et un peu d'idéalisme aussi.
Oui, mais on lui en fallait un peu quand même.
Il fallait un peu.
Oh, oui.
Vous avez raison. Et à l'heure du combat, cet intellectuel qui était raffiné et sensible sut témoigner d'une énergie implacable et d'une ardeur. Il était patriote. Et comme étudiant de droit à Montpellier, ben c'est beau Montpellier. On va faire la fête, la mer est pas loin, on part le week-end et le soir on se repose pour attaquer demain, le lendemain à la fac, quoique il allait à la préfecture lui aussi.
C'est vrai, en plus.
Il fallait travailler. Il aimait le dessin et il aura une galerie de peinture à Nice ensuite, rue de France.
Alors, cette galerie de peinture, c'était pas...
Ça servait de couverture.
C'est
aussi.
Ça, en fait.
Voilà. Et on s'est aperçu plus tard que les Allemands étaient au courant.
Oh.
Ils savaient même l'heure du départ de l'avion quand ils partaient en Angleterre, le
retour. Donc, il y avait quand même des gens qui les renseignaient.
Oui, puis ils étaient très bien organisés aussi.
Oui, mais enfin, il fallait quand même...
Il y a les deux.
Ah oui,
et malheureusement, il y a les deux. Mais enfin, il savait très bien où était la galerie de peinture rue de France.
Oui, c'est ça.
Tout près de la mer, c'était très beau. Et donc, il y avait des peintres pour l'époque très modernes, très Matisse. Il y avait beaucoup de peintres Picasso.
C'est ça, il a rencontré... Il a rencontré tous ces gens-là.
Tous ces gens-là. Et
qui faisait la peinture moderne, oui.
Une amie qui s'occupait de la galerie, ça lui faisait en même temps, il n'avait plus rien à faire. Si, il avait une chose monumentale à réaliser, mais il se ménageait des moments de tranquillité.
Le délassement, il fallait, c'est ça.
Avec les peintres, les nuits à Montmartre.
Avec les poètes,
les
tout
poètes,
ça.
Les poètes, la Méditerranée, Nice, les tableaux, la peinture, l'écriture, tout en se sachant de plus en plus surveillé.
Il savait qu'il était surveillé,
Donc c'était un homme de conviction. Il salit l'amitié de ceux qui, bien sûr, pensent comme lui, et surtout de ceux qui ne pensent pas comme lui. C'était un maître d'énergie, un passeur d'énergie, si vous permettez, un partisan du dialogue et du consensus.
Il savait écouter.
Il savait écouter, et était diplomate né. Voilà, il aurait très bien fait dans la carrière diplomatique. En vrai provençal, dit un auteur, on sent une grande pudeur de sentiments et une réserve naturelle dans la conduite et le langage. André, qui a été étudiant à Béziers, disait « c'est un garçon charmant et sûr ».
Finalement, tous les portraits qu'on...
Tous les témoignages,
c'est ça,
convergent.
Ça se recoupe tout. Oui. Donc c'était bien, il était bien comme ça, en fait.
L'esprit ouvert. Comme étudiant, il aurait l'étoffe d'un héros. Il ne se livrait pas.
Ben voilà.
Il était discret et secret, comme le sont réellement les vrais provençaux.
Là, puis les vrais héros.
Les vrais héros, voilà. Mince et vif, vous l'avez dit, il surprenait par un air d'extrême jeunesse.
C'est ça, oui.
On l'aurait pris pour un étudiant plutôt que pour un fonctionnaire de la préfectorale, c'est ça. le visage mobile, expressif, les yeux noirs, tour à tour rêveurs.
C'est ça, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Voilà, pétillant, malice,
oui.
Plaisait aux habitants. Voilà, il était proche des gens.
C'est ça.
Il était réservé, un peu distant, mais pas raide, dès qu'on le connaissait. Un ami incomparable. Un rayonnement extraordinaire, idée généreuse, exprimé avec foi et sérieux, bien en avant sur son âge. Jean était, demeura toute sa vie un artiste né.
Mm-hmm.
Voilà. Le dessin jusqu'au bout, presque moribond, comme nous disions tout à l'heure. Il a la force de demander à un peu d'eau, parce qu'il n'en peut plus. Et il arrive à caricaturer son
tortionnaire.
Son tortionnaire. C'était un fin lettré, il aimait Wagner.
Oui, curieux. Alors il avait découvert Wagner, et c'était quand il était à Chambéry.
À Chambéry, il avait découvert Wagner, il trouvait fascinant.
Il avait été à un opéra, Lohengrin, voilà,
donc
ça.
Fascinant, voilà. Il disait envoûtant et facile à comprendre.
Il avait aussi rencontré Ravel.
Ravel, qu'il rencontra, ce grand architecte que fut Bach, qu'il adorait Jean-Sébastien Bach, et Fauré.
Gabriel Fauré,
pour sa musique sacrée et ses mélodies ciselées,
oui.
Et la pensée de Jean Moulin en 1921, le responsable, celui qui donne le ton, trace la voie. Il peut être acculé de sacrifier sa propre vie si elle doit limiter les dégâts, nous disait-il. Et nous avons là un témoignage, pour finir, d'une jeune secrétaire qui habitait Trévoux, c'est proche de chez nous,
Bien sûr.
Ça nous touche, mademoiselle Hélène Vernet, qui avait répondu à une interview le 20 décembre 1946 au Progrès de Lyon. Elle nous dit « C'était un garçon charmant. Il était arrivé avec moi, venant de Lyon à Trévoux, le samedi 12 juin 1943, veille de Pentecôte. Le car était si bondé qu'il avait dû prendre place sur l'impériale. Il habitait cette chambre indépendante, admirablement située et préparée par mon père, M. Édouard Vernet, directeur d'école honoraire à Trévoux, 4 montées de Tours ou de la Tour. Cette chambre présentait un avantage, on pouvait en sortir aussi par la fenêtre. Il était simple et familier, se faisait passer pour peintre. Il venait avec nous à la chasse aux escargots, là-haut vers la Tour. Nous avions mis à sa disposition la salle à manger pour son travail et avons pris nos repas ensemble dans la cuisine. C'est dire que notre accueil a été extrêmement simple, mais toutefois très cordial. Aussi, notre hôte s'est senti bien vite très à l'aise. Il se savait traqué, mais il nous quitta cependant. Et quelques jours plus tard, il était arrêté à Lyon. Hélas, nous dit Madame Vernet dans cette interview au Progrès de Lyon. Pour finir, nous savons comment il disparut.
Oui.
Nous savons que son nom a été donné à des dizaines d'établissements scolaires.
Mmh.
Nous pensons à l'université Jean Moulin.
C'est ça,
à Lyon.
Oui.
Et à Bourg, nous avons aussi le campus.
Qui est une antenne.
À l'ancienne charité. À l'ancienne charité. Beaucoup de rues, d'établissements scolaires, de places, de boulevards Jean Moulin. Et puis le fameux discours de
Malraux.
De Malraux. Qu'auriez-vous à dire encore comme personnage?
Écoutez, c'était quand même un homme attachant.
Oui, on aurait aimé le rencontrer.
Je crois que j'aurais aimé le rencontrer, oui.
Oui, on aurait aimé le rencontrer. Et puis
c'est quand même un héros national.
Un héros
national. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Un héros national qui a fait tout ce qu'il pouvait.
Oui,
qui a fait
pour
tout
sauver
ce qu'il
la
pouvait,
France.
Pour sauver la France.
Ouais.
Et c'était pas facile.
Non.
C'était pas facile. Et c'était, je pense, l'homme qu'il fallait. The right man in the right way, peut-être.
C'est ça, voilà.
Et il s'en est quand c'est bien tiré avec De Gaulle.
Mm-hmm.
Ils étaient différents, mais se comprenaient. Et puis, il n'y avait pas le choix. Et puis, avec les alliés, ça aurait été peut-être plus difficile. On ne sait. Déjà, il avait déjà beaucoup à faire avec nous, Français.
Voilà.
Parce qu'en face, il y avait du monde.
Moi, je pense quand même que... Heureusement que Barbier a été arrêté, qu'il a eu son procès, parce qu'il y a eu un très grand procès qui a eu lieu à Lyon.
Tout à fait.
Et là, véritablement, moi, j'ai assisté à ce procès.
Ah, j'allais vous dire, vous y avez été.
Mais je ne suis pas allée longtemps.
Oui.
Mais en plus, ça a été télévisé.
Oui, aux 24 colonnes, vous étiez.
Voilà, c'est ça. J'y suis allée parce que, véritablement, c'était... Pour moi, je trouvais que c'était un peu un devoir.
C'est bien. Tout à fait, c'est exact. Oui, tout à fait, nous approuvons. Théophile et moi, nous approuvons. D'autres techniciens, nous approuvons. Et vous êtes allé aussi au Fort Montluc.
Non, je ne suis pas allée, parce que je crois
que... Vous avez la cellule.
C'est ça, et je pense que ça me faisait peur, en fait.
Ah, d'accord.
J'avais pas très envie de voir là où il y avait eu l'agonie quand même.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Je voulais quand même garder. Et là, ce procès, pour moi, ça a été...
Voilà.
C'était libérateur.
Et après voilà. Mormon Luc, il est monté à Paris.
C'est ça, voilà.
Et après, oui. Disparu, oui. On ne sait pas.
On dit qu'il il est mort à Metz, mais enfin, on ne sait pas.
Dans un wagon, tout
oui.
ça.
Ouais.
Oui, oui, oui. Et quand Klaus Barbie a été arrêté, Badinter, Robert Badinter a voulu que Barbie passe une nuit à Montluc
pour se rendre compte
de ce que cela avait
oui,
été.
Oui, okay. Ah, oui.
On termine avec un poème de Paul Éluard qui a été écrit en 1943, « Avis. La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait. Sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger, il le savait, et le jour se leva pour lui. » Paul Éluard, 1943. Et rappelons-nous au monument du Cerdon, « Où je meurs, renaît la patrie de Louis Aragon, la chanson du franc-tireur. » Merci Gisèle pour tout ce travail riche et abondant que vous avez effectué. Merci à Théophile. Et nous partons un peu en Provence, puisque Jean Moulin était aussi bien provençal, avec Georges Bizet et un peu d'arlésienne. Au revoir.